Bonjour et merci d'être au rendez-vous du Grand Face à Face tous les samedis. Au sommaire de l'émission, votre rendez-vous habituel, le duel Natacha Polony-Gilles Finkenstein. Et puis en débat aujourd'hui, l'économie à l'heure des extrêmes. Comment imaginer sortir de la crise que nous traversons, de la crise sanitaire bien sûr, mais aussi de cette crise économique historique dont les conséquences sociales risquent d'être d'une violence inouïe partout dans le monde, dans les pays les plus riches comme ceux qui sont les plus pauvres. Et pour nous aider à y réfléchir, une invitée exceptionnelle dans l'émission, elle publie « Économie utile, pourtant difficile ». C'est le titre de ce livre de la prix Nobel d'économie Esther Duflo, essai qui paraît aux éditions du Seuil et qu'elle co-signe avec Abhijit Banerjee, et un livre qui reprend les principaux slogans, les grands clichés de l'économie d'aujourd'hui. Exemple, la croissance est forcément bonne. Exemple, tout le monde gagne au libre-échange. Livre où elle traque aussi les idées reçues comme celles qui animent le discours des populistes, la question des inégalités, celle de l'injustice, ou plutôt même des injustices économiques et sociales, c'est quelque chose qu'elle a travaillé depuis longtemps. Esther Duflo sera avec nous dans une vingtaine de minutes depuis Boston. Mais d'abord, le duel.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Le duel avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkenstein. Salut les amis.
Bonjour.
Bonjour Gilles, apparemment petit problème de liaison avec Natacha Polony, le temps de retrouver la connexion avec elle et elle nous rejoindra puisque Gilles, c'est le rituel du samedi. Vous nous présentez chaque semaine les cahiers du confinement de la Fondation Jean Jaurès avec l'IFOP, des cahiers que vous avez confiés à des dizaines de Français pour suivre leur morale, notre morale, au fil de ces longues semaines qui viennent de s'écouler. Bonne nouvelle, il y a un dernier chapitre, Gilles.
Oui, c'est un rituel du samedi, mais c'est d'une certaine manière notre dernier rituel, puisque ce sont les ultimes cahiers de confinement, et je dois dire que nous ne nous y attendions pas. De ces derniers cahiers de confinement, je retiens trois choses. D'abord, le moral individuel progresse, mais le pessimisme collectif aussi.
Ah oui.
Le moral des Français atteint en moyenne son niveau le plus haut depuis le 17 mars. Alors c'est pas une progression considérable, mais c'est une progression. Et d'un autre côté, il y a à la fois l'angoisse de plus en plus forte des conséquences économiques et sociales de la crise, mais il y a aussi, et ça fait écho au débat qu'on avait eu ici même la semaine dernière, une ambiance qui est jugée pesante. Il y a des Français qui nous disent tous ces gens en masque qui s'évitent, faisant écho aux inquiétudes exprimées par Pascal Bruckner lorsqu'il évoquait la société du mètre et demi.
Oui.
Deuxième chose qui m'a frappé, c'est que l'inquiétude est intense et elle n'évolue pas. Les Français ont eu peur et cette peur ne s'est pas évanouie en l'espace d'une nuit entre le 10 et le 11 mai et rien ou presque n'a bougé sur ce terrain-là depuis 10 jours. Vous avez toujours 40% de Français qui estiment que le pire est devant nous et toujours aux alentours de 33% qui considèrent que les choses vont rester stables. Et surtout, il y a un chiffre qui m'a beaucoup frappé, parce que ça peut peser sur les comportements. Vous avez plus de 70% des Français qui font le pronostic d'une deuxième vague d'épidémie et d'un deuxième confinement général. On comprend dès lors, et c'est la dernière enseignement,
oui,
pourquoi le déconfinement a été progressif et limité. Progressif, vous avez 15% seulement des Français qui disent « Mon quotidien a tout à fait changé depuis le 11 mars. »
15%
depuis
seulement.
Le 11 mai. 15% seulement. Il y a un des Français qui nous écrit « Je remets mon évasion à demain. » Et cette attitude-là d'attendre un peu avant de se déconfiner, je crois qu'elle a été assez partagée. Alors peut-être que le week-end dernier a été une première occasion d'accélération du déconfinement, que le week-end qui vient le sera davantage encore, mais il y a eu ça, un déconfinement progressif. Et puis,
Natacha nous a rejoint justement.
Dernier point avant de laisser la parole à Natacha, c'est que ce déconfinement a été limité, c'est-à-dire que très souvent, il a consisté simplement en un élargissement de son horizon. son horizon physique, on a fait une balade au-delà du kilomètre réglementaire, et son horizon social, où on a retrouvé les premiers repas entre amis, les premiers repas en famille. Et beaucoup de Français nous ont dit, mais on ne mesurait pas à quel point ça nous a fait du bien. Voilà, c'est comme ça que se terminent ces cahiers de confinement, avec ces portes qui se réouvrent timidement. On les avait commencé au moment où les portes se fermaient. Beaucoup de Français nous ont remerciés en disant que avoir rempli ces cahiers de confinement, ça les avait aidés à tenir. Au moment où on s'arrête, je voudrais à mon tour les remercier, et aussi avec l'IFOP, Marie Gariazzo et Sarah Volbert, qui ont fait leur analyse, pour dire que la lecture de ces cahiers, je crois que ça nous a aidés beaucoup collectivement à comprendre ce qui était en train de se passer.
Et à nous aussi, ça nous a fait du bien d'ailleurs. Et merci Gilles pour ce rendez-vous du samedi. Natacha, comment expliquer du coup l'importance que prennent ces images, des images festives, des images de Français en week-end, tout simplement en train de pique-niquer sur une pelouse, se faire évacuer des berges d'une rivière ou d'un fleuve à Lyon ou à Paris par les forces de l'ordre? C'est comme s'il y avait une forme d'insouciance qui, pour le coup, va contre ce que nous dit Gilles et ce qu'enseignent ces cahiers du confinement.
Je pense que c'est l'importance. D'abord, bonjour et désolé pour cette rupture de connexion.
Ça arrive.
D'abord, je pense que c'est très lié à ce que vient d'expliquer Gilles. L'importance, en tout cas, que prennent ces images, qui pourtant ne sont pas majoritaires. Premier point, Gilles disait à l'instant que il y a 70% des Français qui sont persuadés qu'il y aura une deuxième vague. En fait, nous sommes confrontés, là aussi, à une incertitude qu'on a déjà analysée ici, mais qui se renouvelle, et avec encore plus de violence, sur la question de la deuxième vague, puisqu'on a des discours scientifiques dont certains nous disent non, ça s'éteint, mais avec force, comme si ça, on pouvait être sûr, et d'autres qui nous disent il y aura une deuxième vague, elle sera énorme, avec tout autant de force.
Oui.
Donc, incertitude et angoisse, parce qu'à côté de ça, évidemment, le discours des autorités de santé, pour le coup, essaye de maintenir cette forme d'angoisse de la deuxième vague pour essayer de contenir les risques, on va dire, d'optimisme trop fort des citoyens. Alors après, je pense que nous sommes dans une période qui est une période d'entre-deux assez particulière. Et que c'est ça qui crée cette ambiance que décrivait Gilles. Moi, je dirais que nous sommes dans une bulle spéculative de bien-être, c'est-à-dire le moment où on a encore les bénéfices du confinement, dans le sens où le nombre de morts a diminué, le nombre de contaminations aussi. On ne peut pas encore savoir ce que va donner en termes sanitaires le déconfinement, puisqu'il y a un temps de latence qui est celui de l'incubation de la maladie.
Ouais.
Et on n'est pas encore dans la crise économique, là aussi brutale, que l'on peut anticiper et qui arrivera en fait sans doute au mois de septembre, quand les entreprises rendront leur bilan, quand les entreprises devront payer des charges, quand les chômeurs existeront, seront là. Donc là, on est dans ce moment de flottement où même le temps s'y met, il fait beau. Et les Français veulent y croire tout en étant parfaitement lucides, c'est ce que disait Gilles. Ils sont parfaitement lucides, la majorité a compris que la crise allait être violente et que là, il y allait y avoir des décisions politiques à prendre. Ils
justement
anticipent des débats profond.
Avant ces débats profonds, il y a eu des décisions politiques importantes qui ont été prises très récemment. On en parle tout de suite.
Il faut un effort colossal et nous sommes prêts à le fournir du côté français et allemand. L'Union européenne doit faire preuve de cohésion. Il faut que nous reprenions le dessus rapidement. Et c'est pourquoi nous voulons avoir un fonds qui soit bien sûr limité dans le temps, mais 500 milliards d'euros sont prévus.
Pour la première fois ensemble, ce que nous proposons, ensemble, Allemagne-France, aux 27 pays membres, c'est d'une part de décider, tous ensemble, d'aller lever une dette commune sur les marchés et d'utiliser ces 500 milliards d'euros, de l'utiliser pour apporter des financements qui seront fléchés en priorité sur les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire et économique et les régions les plus impactées par cette crise.
C'était lundi, conférence de presse conjointe à distance mais ensemble. La chancelière allemande Angela Merkel et le président Emmanuel Macron, qu'on vient d'entendre, annonçaient donc un plan solidaire inédit pour surmonter, je les cite, la plus grave crise que l'Union européenne ait eu à affronter. L'initiative est qualifiée de tournant historique. On aura l'occasion de revenir sur les politiques de soutien de manière assez approfondie tout à l'heure avec Esther Duflo. tournant historique malgré tout, Gilles, est-ce que l'expression vous semble justifiée ?
Oui. Oui. J'avais, moi qui suis, comme vous le savez, semaine après semaine, un Européen convaincu, j'avais exprimé depuis plusieurs semaines une vraie déception par rapport à la manière dont l'Europe avait fait insuffisamment preuve de solidarité. Là, je crois qu'on peut avoir une grande satisfaction. Et pour comprendre l'ampleur du changement, il faut repartir de la création de l'euro en 2000. On crée une union économique et monétaire. La réalité est que on crée réellement une union monétaire, c'est-à-dire une monnaie unique, qui a permis un certain nombre de choses. On a eu plus d'échanges, on a eu des taux d'intérêt bas, on a un peu adapté le système au moment de la crise de 2015, mais on n'a pas eu d'union économique. Il n'y avait pas de capacité d'action, de soutien à l'économie quand ça allait mal, et il y avait peu de solidarité. Et donc, ce qui vient d'être annoncé par le président de la République et la chancelière est une vraie rupture, parce que pour la première fois, il y a un emprunt européen, c'est-à-dire une dette qui n'est pas une dette des États, mais une dette de l'Europe, et que cette dette, elle est faite pour de la solidarité européenne, c'est-à-dire pas pour des prêts, mais pour des aides. Et donc, oui, je crois que c'est un changement qui est historique, c'est une bonne nouvelle, évidemment, pour le président de la République, et c'est, je crois, un vrai succès pour lui. C'est une bonne nouvelle pour le moteur franco-allemand, mais surtout, c'est sans doute, ça pourrait être, la meilleure nouvelle pour l'Europe depuis 20 ans.
Natacha.
Je suis moi aussi une Européenne convaincue, mais c'est pour ça que je suis extrêmement critique depuis des années sur la construction de cette Union européenne-là. Et là, je pense qu'on a en face de nous quelque chose qui relève de beaucoup de communication, mais qu'il ne faut pas se laisser prendre par la communication. Je ne dirais pas que c'est un tournant historique, c'est une annonce qui, si elle était suivie des faits, pourrait avoir une importance majeure. Toute la question est de savoir si elle sera suivie des faits réellement, parce que ça fait déjà plusieurs fois que Emmanuel Macron et Angela Merkel nous habituent à ces grandes décisions qui, en fait, viennent cacher la misère et qui se contentent d'être des proclamations sans que jamais on ait réellement derrière la mise en œuvre, parce que la mise en œuvre est beaucoup plus compliquée que ça.
Expliquez-nous ça.
Qu'il y a l'idée qui surgit, mais derrière, on repousse le moment de la mise en œuvre, parce que c'est là, évidemment, que les problèmes surgissent. En l'occurrence, cette proclamation fait suite à la décision de la cour de Karlsruhe et est une réponse d'Angela Merkel à cela, c'est-à-dire une façon de prouver que non, les Allemands ne sont pas d'horribles égoïstes et qu'ils sont pro-européens. Parce qu'en fait, la décision de la cour de Karlsruhe est très, il faudrait pouvoir l'analyser profondément, mais en fait, elle proclame la souveraineté, voire le nationalisme juridique allemand, en disant que la cour allemande ne reconnaît pas forcément le droit européen. C'est une décision majeure, même si elle fait suite à beaucoup d'autres. Alors, la réponse d'Angela Merkel est de dire « Mais si nous sommes pro-européens, nous voulons nous engager, allons-y ». La question est de savoir si ce qui a été annoncé là sera réellement mis en œuvre, puisque une part des pays européens n'en veut pas. Et qu'ensuite, tout cela relève d'un mécanisme qui, on peut se réjouir que ce soit déjà ça, 500 milliards, c'est insuffisant face à la crise qui vient, c'est largement insuffisant, et ça va être mis en place d'une façon, si ça peut être mis en place, qui ne permettra sans doute pas à un pays comme la France, par exemple, ou même à un pays comme l'Italie, d'y retrouver ses billes. Donc, c'est très positif du point de vue de l'évolution de l'Union européenne, dans le sens où, en effet, ça veut dire qu'on sort d'une politique qui serait uniquement égoïste et uniquement fondée sur la volonté de pays qui ne veulent surtout pas faire de la dette, qui ne veulent surtout pas mutualiser, donc très bien. En revanche, c'est à la fois minuscule, très difficile à mettre en œuvre, et il y a peu de chances que ça se fasse. Et ça relève de la réparation d'une décision de la Cour de Karlsruhe qui, elle, montre que l'Union européenne, c'est très difficile à faire.
Gilles, une réaction avant de passer au prochain chapitre ?
Oui, une réaction, parce que je suis partiellement, ou même un peu plus que partiellement, en désaccord avec Natacha. Qu'il y ait des arrière-pensées de la part des différents acteurs, sans aucun doute, il y a pour Angela Merkel une réponse à l'arrêt du tribunal constitutionnel allemand, sans doute. Je crois qu'il y a d'autres éléments. L'Allemagne a sans doute intérêt à ce que l'Europe ne s'écroule pas complètement. L'Allemagne a intérêt à ce que l'Italie ne fasse pas sécession. L'Allemagne va prendre dans quelques semaines la présidence de l'Union européenne. Et Angela Merkel, c'est un élément très important. Elle ne devait pas seulement faire ce mouvement, elle pouvait le faire parce que elle a regagné de la confiance. Et c'est très frappant de voir que le capital politique dont elle disposait à nouveau a fait que, en l'espace de quelques jours, l'opinion allemande et même les plus durs de la CDU l'ont suivi. Donc, il y avait des arrière-pensées, mais à la limite, peu importe. L'important, c'est que ça avance. Alors, c'est le deuxième point que vous évoquez, c'est si c'est suivi des faits. Oui, il y a quelques pays, c'est ce qu'on appelle les quatre frugaux, la Suède, le Danemark, l'Autriche, la Suède, qui sont
les Pays-Bas.
Les Pays-Bas qui sont en retrait. On va voir jusqu'à quand. Moi, je pense que ça va bouger. Vous dites 500 milliards, c'est insuffisant. D'abord, les 500 milliards s'ajoutent à d'autres centaines de milliards qui avaient déjà été décidés. Donc, on est à plus de 1000 milliards, ce qui commence quand même à être de l'argent. Déjà, si on arrive à faire ça, c'est pas mal. Enfin, l'Italie n'y retrouvera pas ses billes. Ça, on va voir. Il y a des critères qui vont être définis. Évidemment, chacun va essayer de faire en sorte que les critères qu'on privilégie, les régions les plus touchées, qu'on privilégie les secteurs les plus touchés, chacun va essayer de faire en sorte que ça lui bénéficie au maximum. Mais oui, je crois qu'il y a peu de doute que l'Italie recevra plus qu'elle ne paiera. Donc, tout ça fait que, Natacha disait, si elle était suivie des faits, ça serait d'une importance majeure. Je crois que c'est d'une importance majeure. Et je termine par là.
D'un mot,
Gilles. Quand vous regardez la manière dont se sont construits la fédération l'État fédéral aux États-Unis, eh ben, c'est sur un processus qui ressemble beaucoup à celui-là après la guerre d'indépendance, où pour la première fois, il y a eu un emprunt fédéral. Pour la première fois, il y a eu de la solidarité entre les différents États. Et derrière, il y a eu pour la première fois des ressources propres. Eh bien, j'espère que c'est dans ce chemin-là que l'Union va s'engager.
Natacha?
Juste un mot pour dire que Gilles esquissait un point qui est, à mon avis, fondamental, le fait que l'Allemagne n'a pas intérêt à ce que l'Europe se défasse. Et nous sommes dans une situation où, en effet, c'est l'Allemagne qui est en train de poser problème, la décision de la Cour de Karlsruhe le montre, mais c'est l'Allemagne aussi qui a besoin que l'Union européenne se fasse et que l'Union monétaire reste telle qu'elle est. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne a besoin tout simplement du marché intérieur européen, surtout si ses exportations en Chine et aux États-Unis se contractent. Or, c'est là, disons la vision d'Angela Merkel, c'est cela, c'est que si, par hasard, l'Allemagne se rétractait, ce serait elle qui potentiellement sortirait du jeu. Auquel cas, si le Mark revenait, ce qui est une hypothèse absolument, évidemment, impensable aujourd'hui,
mais
en fait, il serait réévalué par rapport au franc de 30%. Vous imaginez la situation, ça veut dire que l'Allemagne pourrait nettement moins utiliser le marché intérieur européen. Et cela, c'est Angela Merkel l'a en tête, cette question-là. C'est-à-dire que l'euro sert l'Allemagne pour l'instant. Tant qu'ils y ont intérêt, ils y resteront, mais ils y resteront en essayant d'imposer évidemment leurs intérêts à eux et leur vision de ce que doit être une union monétaire.
Oui.
Toute la question est de savoir si ça pourra être infléchi dans un sens qui sera moins unilatéral.
On aura l'occasion de reparler évidemment de cette décision ou de cette annonce importante faite par Angela Merkel et Emmanuel Macron, et on parlera des municipales. Le second tour aura donc lieu le 28 juin. Je sais que ça vous passionne l'un et l'autre, et on parlera également du 9e groupe qui vient de se constituer à l'Assemblée nationale, mais ce sera samedi prochain, il est midi 25, et à suivre dans le grand face-à-face, le débat avec Esther Duflo.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Comment justement sortir de cette crise économique que nous traversons ? Peut-on imaginer une croissance équitable et plus juste ? Pour nous aider à y réfléchir, une invitée exceptionnelle dans le grand face-à-face ce samedi. Elle publie « Économie utile pour des temps difficiles », titre du livre de la prix Nobel d'économie Esther Duflo, un essai qui paraît aux éditions du Seuil et qu'elle co-signe avec Abhijit Banerjee. Ils sont tous les deux spécialistes de la pauvreté. La pauvreté et les conséquences sociales qui s'annoncent dramatiques après la crise crise sanitaire et la crise économique que nous traversons. On parle de menaces de famine dans certaines régions du monde, de retour de la très grande pauvreté, des sujets qu'elle connaît parfaitement. Bonjour Esther Duflo.
Bonjour.
Merci d'être à l'antenne de France Inter. Vous êtes en direct depuis chez vous à Boston. Et merci de vous être réveillée aussitôt puisqu'il est 6h30 chez vous. Beaucoup de choses dont on va parler, et notamment de ces grands clichés, de ces idées reçues que vous mettez par terre dans votre livre. Les grandes idées reçues sur la croissance, par exemple, qui seraient forcément bonnes. Sur l'idée que tout le monde gagnerait au libre-échange. Sur des idées qu'on peut avoir aussi lorsque l'on est populiste et qu'on veut faire un discours qui plaît à ses électeurs. Mais d'abord, quelles sont les principales leçons que vous tirez de cette crise économique que nous vivons, de cette crise économique et sociale que nous vivons, Esther Duflo?
C'est un petit peu tôt pour en tirer les leçons, parce qu'il faudra voir ce qui se passe dans les semaines et les mois à venir. La crise a été déclenchée par un facteur inattendu et étranger à l'économie elle-même. Mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est les réponses à cette crise des gouvernements sont en train de se dessiner.
Oui.
Et dans quelques semaines, on pourra en voir si on est capable de sortir de cette crise de manière plus solidaire et plus forte, ou si au contraire, les sociétés se délitent sous son poids.
Ça, c'est pas encore joué, justement. Qu'est-ce qu'il manque pour qu'on puisse avoir les idées plus claires sur ce qui nous attend ou sur ce qu'on peut faire?
C'est pas encore joué parce que il y a deux facteurs pour lesquels c'est pas encore joué. Le premier, c'est tout simplement l'incertitude sanitaire elle-même, c'est-à-dire la vitesse à laquelle on pourra trouver soit un traitement, soit un vaccin. Il reste encore des incertitudes sur la manière dont le virus se propage, qui a des implications sur comment on peut repartir comment on peut redémarrer notre économie, etc. Donc toutes ces incertitudes dont moi je ne suis pas spécialiste, mais oui. Je suis. L'autre incertitude qui est plus liée à l'économie, c'est comment, en supposant que les conditions sanitaires soient remplies pour redémarrer l'économie, est-ce que cette crise économique qui a été démarrée par choix, par nécessité, mais on a arrêté l'économie un beau jour, est-ce que ce serait un arrêt temporaire? Ou est-ce que il y aura un effet boule de neige qui fait que la crise va continuer, la crise économique et sociale va continuer, même si les conditions sanitaires pour revenir à une économie qui fonctionne sont remplies? Et ça, c'est les prochaines semaines et les prochains mois qui vont le déterminer.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'on va justement revenir à la normale, comme à chaque fois qu'il y a eu de grandes crises, on se remet du choc et puis on reprend le business comme d'habitude? Ou est-ce que cette fois-ci, c'est différent? Est-ce que vous avez le sentiment qu'à travers cette crise décidée pour partie et dont vous nous parliez à l'instant, on s'est aperçu qu'il y avait peut-être des choses qui comptaient pour nous plus que d'autres, qu'il y avait une conscience, une prise de conscience de ce qui était réellement important dans nos vies, qu'il y avait peut-être des excès dont il va falloir corriger rapidement tout ce qu'ils peuvent entraîner comme catastrophe?
Je pense que c'est très très difficile à prévoir, mais parce que j'ai pas de boule de cristal qui dit comment le dialogue politique et social va se jouer dans les semaines à venir. Mais c'est clair qu'il y a des possibilités à la fois dans le sens positif dont vous parliez et dans un sens plus inquiétant qui est une montée possible des xénophobies, de la fermeture des frontières à l'intérieur de l'Europe ou à l'extérieur de l'Europe. Et ces débats ont lieu parce que pour deux raisons. Je pense d'abord à cause de la violence du choc qui était complètement inattendu, et je pense qu'en réalité on aurait dû savoir que quelque chose comme ça aurait pu se produire, puisque les épidémiologistes en avaient parlé. Il y avait déjà eu la répétition générale du SRAS et MERS en Asie. Mais je pense que en tant qu'humain, on a beaucoup beaucoup de mal à se mettre à réaliser que parfois la nature est juste plus forte que nous.
Oui.
Et je pense que une des choses que nous avons réalisé dans cette crise, c'est que ça peut se produire, et je pense que ce qui reste, j'espère en tout cas que ce qui risque de rester avec nous, c'est une conscience plus importante de deux choses. D'une part, la nécessité d'avoir une société, un gouvernement, une organisation qui est prête pour ce genre de situation. Donc, en commençant par la préparation des hôpitaux, la capacité de tester, etc., pour cette maladie, puis pour les autres, s'il y en a d'autres, et la préparation d'une solidarité nationale économique pour être capable d'agir très rapidement si on est obligé d'arrêter l'économie une deuxième fois. Et puis, plus largement, je pense que il pourrait y avoir une prise de conscience du climat, et parce que le climat, c'est exactement une autre situation où la nature pourrait se révéler plus forte que nous. Et donc de réaliser que on peut pas juste continuer en attendant que la situation explose. C'est quelque chose que peut-être qui peut-être pourrait émerger de cette crise.
Et on va en parler justement. Natacha Polony et Gilles Finkelstein ont tous les deux lu votre livre. Natacha.
Bonjour Esther Duflo. Il me semble qu'il y a un élément qui a surgi, qui était très frappant dans cette crise, c'est le fait que justement parce qu'elle n'est pas une crise du système lui-même, du système capitaliste, financiarisé, mais qu'elle est une crise extérieure, elle a fait ressortir ce qui ne fonctionnait pas dans ce système et sur lequel certains alertaient jusqu'à présent, ne serait-ce que la montée des inégalités qui était majeure, mais qui était, sous-évaluée par ceux qui estiment que le libre-échange enrichit globalement tout le monde. Et c'est pour ça que votre livre est très intéressant, parce que tout le passage, notamment sur le libre-échange, montre très bien les limites de ce raisonnement. Mais cette crise, donc, a fait ressortir le fait que la division mondiale du travail, l'idée que chaque pays va se spécialiser, d'abord était totalement déséquilibré, puisqu'en fait, il y a eu une désindustrialisation massive des pays occidentaux par rapport à la Chine. Donc cette division mondiale du travail ne se fait pas de façon équilibrée, justement. Et surtout que l'économie néolibérale, ce système-là, oublie un facteur majeur qui est la géopolitique, et qui est la politique, c'est-à-dire les actions humaines et les choix humains, dans le sens où, évidemment, quand une crise arrive, on protège ses intérêts, son propre pays, au détriment des autres, et nous avons vu une guerre absolument effarante sur les denrées sanitaires de base. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'on corrige simplement ce système néolibéral de ces facteurs que l'on identifie, ou est-ce qu'on change de système en tenant compte du fait que d'un point de vue environnemental et d'un point de vue social, il est totalement absurde. Quelles seraient les possibilités de changement de système, selon vous, dans la mesure où ce système montre ses limites?
Esther Duflo.
Vous avez absolument raison que la crise cette crise en particulier n'a pas été causée directement par les dysfonctionnements du système lui-même, contrairement par exemple à la crise de 2008 qui était un effondrement du château de cartes financier lui-même, donc qui venait de l'intérieur en quelque sorte. Mais par contre, elle est intervenue dans un contexte où il y avait déjà un certain nombre de tensions et de discussions difficiles qui se profilaient sur ces sujets. Notre titre, Économie utile pour des temps difficiles, il date d'avant la crise du Covid.
Juste
et
avant
déjà,
la crise.
Les temps étaient difficiles.
Oui.
Et déjà, il y avait des débats qui même souvent tournaient plus à la confrontation qu'au débat sur des sujets comme le libre-échange, les inégalités, la redistribution, etc. Bon, là où je mettrais plus l'accent sur ce qu'on a découvert dans cette crise, plus encore que le libre-échange sur lequel on peut revenir si vous voulez, mais ce qui m'a plus frappé, c'est ça a remis en avant le rôle essentiel du gouvernement dans nos vies. Il y a eu une érosion dans beaucoup de démocraties occidentales, dont la France, de la confiance dans les institutions, dans le gouvernement, dans la solidarité nationale. C'est devenu un petit peu un sport national de dire du mal du gouvernement, quel qu'il soit, que ce soit celui-ci ou les précédents.
C'est sûr.
La même chose aux États-Unis, le gouvernement est le problème, le gouvernement n'est pas la solution. C'était un slogan de Reagan, mais tout le monde l'a accepté. Et ce qu'on se rend compte dans une pandémie, c'est bien sympathique d'avoir un gouvernement qui est prêt, qui n'a pas vendu tous ses ventilateurs, qui est prêt à se lancer immédiatement dans un effort de redistribution pour protéger les plus pauvres pendant la crise, etc., etc. Et on voit à nouveau ressortir le Danemark, par exemple, qui a un gouvernement fort, bien organisé et légitime, et qui est capable de faire face à la fois au côté sanitaire et au côté économique de la crise mieux que l'Italie, les États-Unis et la France.
Parce que même aux États-Unis, on a vu l'État, justement, l'État qui est régulièrement critiqué, qui a dû intervenir dans certains secteurs pour protéger les emplois, pour protéger des entreprises, pour protéger des secteurs entiers de la vie économique. La leçon à retenir, parce que c'est quand même assez important, c'est malgré tout l'importance de l'action de l'État, mais il y a aussi la question de la dette. Est-ce que ce qu'on prépare aujourd'hui, c'est l'austérité de demain? Est-ce que sauver l'économie aujourd'hui, c'est se préparer malgré tout, d'une manière ou d'une autre, à une crise et à des politiques plus dures une fois qu'on sera sorti de la catastrophe sanitaire?
Non, c'est pas comme ça que la dette des États marche, en tout cas pas la dette des États-Unis ou la dette de l'Europe, puisque maintenant avec l'accord Macron-Merkel on parle de dette de l'Europe. C'est-à-dire il faut pas penser que les États ne sont pas comme des bons pères de famille qui s'ils dépensent plus aujourd'hui devront dépenser moins demain. Les États ont un horizon de vie à peu près infini, en particulier quand leurs notes sur le marché du crédit sont bonnes, comme c'est le cas des États-Unis ou de l'Europe. C'est-à-dire la dette de l'État est toujours quelque chose sur lequel les gens voudront revenir pour emprunter. Ce qui fait qu'il ne faut pas du tout se poser la question d'un emprunt aujourd'hui comme « oh, on devra le rembourser dans le futur ».
C'est un discours qu'on entend très régulièrement ici, qu'on entendait même dans la bouche du gouverneur de la Banque de France, par exemple.
C'est une intuition tellement logique que c'est normal que ça vienne, mais c'est pas étonnant que ça vienne immédiatement à l'esprit, mais la comparaison de l'État au bon père de famille est en fait très 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 fausse. Aujourd'hui, l'Europe, les États-Unis peuvent emprunter à taux essentiellement zéro.
Oui.
Par ailleurs, le remboursement se fera dans tellement longtemps et d'une manière tellement diffuse en quelque sorte que première approximation, on peut dire que c'est comme si on n'aurait jamais à rembourser cet emprunt. Et bien sûr, il y a des limites à cette, on peut pas faire ça, on peut pas emprunter infiniment. Mais les volumes dont on parle aujourd'hui, ils sont sans aucun risque pour l'économie de demain. Là où il y aurait un risque pour l'économie de demain, c'est de ne pas agir très très rapidement pour soutenir les pouvoirs d'achat, parce que si on ne le faisait pas, il y aurait un effet boule de neige sur la crise économique qui, bien qu'ayant commencé en venant de l'extérieur par le virus, deviendrait quelque chose qui a sa propre vie à elle. Donc agir aujourd'hui et agir massivement, c'est clair qu'est-ce qu'il faut faire. Et il n'y a pas du tout d'arbitrage entre aujourd'hui et demain, parce qu'en agissant aujourd'hui, en fait, on aura moins à payer demain. Cela dit, oui, la discussion sur « mais dans le futur », pour être préparé de manière plus permanente à une épidémie possible, pour avoir pour être plus solidaire pour les gens qui on a vu sont sur les lignes de front, qui sont comme par hasard toujours les plus pauvres, les moins
les plus précaires,
les plus vulnérables, etc. Il faut repenser à on va pas financer à la fois cette préparation et ces efforts de solidarité avec la dette. Donc il y a aussi une discussion sur repenser notre système fiscal, etc., de manière plus fondamentale. Mais cette discussion, elle peut se faire plus tranquillement au cours du temps, dans le cadre des débats démocratiques qui ont lieu normalement, alors que la décision d'agir aujourd'hui pour maintenir les pouvoirs d'achat de tout le monde, et en particulier des plus vulnérables dans la crise, devait être prise. Et j'espère que si jamais l'Europe se rend compte qu'ils doivent emprunter plus, ils le feront. En 2008, la grosse erreur qui avait été faite en Europe, c'était d'abord, ils étaient partis sur la bonne ligne, et puis tout d'un coup, ils ont eu peur, en particulier les Allemands, justement, à cause de cette idée, oh là là, mais si on emprunte aujourd'hui, il faudra rembourser dans le futur, il y a une espèce de pente glissante sur laquelle on s'enfonce. Et du coup, ils ont resserré les vis bien trop vite, ce qui fait que la reprise a été beaucoup plus lente en Europe qu'elle n'aurait pu l'être. Et j'espère qu'on ne refera pas la même erreur aujourd'hui. Je l'espère et je le crois, parce qu'on a déjà l'expérience de 2008.
Gilles Finkelstein.
Oui, bonjour Esther Duflo. Je voudrais revenir sur ce que la crise a fait émerger. On a évoqué depuis quelques instants à la fois la nécessité du rôle de l'État, l'importance de la solidarité. Cette crise, elle a donné aussi de la visibilité à des catégories de la population qui en avaient peu, et notamment aussi aux plus pauvres, à ceux qui n'avaient pas de domicile, qui étaient mal logés, à ceux qui étaient vraiment dans la difficulté. Et ce sujet de la pauvreté, qui est le sujet sur lequel vous avez consacré vos travaux de recherche depuis de nombreuses années, c'est là-dessus que je voudrais vous interroger. On a vu depuis 20 ans, et contrairement sans doute aux perceptions qu'en ont beaucoup de Français, une évolution très positive de la très grande pauvreté qui a reculé comme jamais dans l'histoire de l'humanité, au moment même où la population mondiale augmentait. Avec la crise du Covid, on voit que la plupart des pays pauvres ou des pays qui ont émergé sont aujourd'hui dans la difficulté. Est-ce qu'on peut déjà avoir une idée de l'impact de cette crise sur la pauvreté dans le monde et sur la réaction qu'il faudrait lui apporter? Natacha a parlé tout à l'heure d'une nouvelle phase de la mondialisation. On voit qu'elle sera sans doute plus fragmentée, plus régionale, qu'il y a des tentatives de relocalisation. Ça serait quoi une bonne mondialisation pour continuer à réduire la pauvreté dans le monde?
Esther Duflo.
Oui, merci. Merci de la question. Merci de poser la question. D'abord, vous avez raison. Les 30 dernières années ont été absolument excellentes pour ce qui est de la très très grande pauvreté dans le monde. Elles ont été dangereuses pour nous dans les démocraties occidentales, mais on a vu une diminution de la pauvreté de moitié, une diminution de la mortalité infantile de moitié. Presque tous les enfants vont à l'école aujourd'hui. Les morts du sida ont diminué, etc. Donc dans l'ensemble, les 3 dernières décennies ont été très bonnes pour les pauvres du monde, et en particulier grâce à plus d'accent porté sur le bien-être et la vie des plus pauvres dans beaucoup de pays, par exemple en Afrique, même où il n'y a pas eu de très forte croissance économique. Dans ce contexte intervient la crise du Covid. Je crois qu'on ne sait pas encore à quel point l'aspect sanitaire sera grave ou pas dans les pays les plus pauvres.
Oui.
On ne sait pas encore. Il y a eu très très peu de tests. On a du mal à voir qu'est-ce qui va se passer au point de vue de la santé. Donc il y a une grosse interrogation là. Par contre, au point de vue économique, on sait déjà que c'est très risqué, qu'on est un petit peu sur le bord d'un gouffre, justement parce que même si les gens sont sortis de la pauvreté, ils sont encore très très proches du seuil de subsistance, en quelque sorte beaucoup beaucoup d'entre le sont, en particulier de très nombreux migrants temporaires qui ont été renvoyés chez eux par les mesures de confinement qui ont été prises et qui n'ont rien, et pour lesquels leurs familles n'ont rien. Et le risque, c'est qu'ils sombrent dans des trappes de pauvreté, c'est-à-dire qu'ils deviennent tellement pauvres qu'ils dégringolent en dessous d'un niveau subvenir à ses besoins de base est difficile, et donc revenir sur le marché du travail quand ce sera possible est difficile. Et donc ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, et c'est quelque chose sur lequel j'ai essayé de beaucoup insister à qui veut l'entendre, c'est d'assurer aux populations les plus pauvres des pays les plus pauvres un revenu de base universel, un petit peu comme ça a été fait chez nous par le biais du chômage partiel, ou aux États-Unis par le biais d'une augmentation des allocations chômage. C'est-à-dire rassurer les gens qu'ils ne vont pas mourir de faim pendant cette crise, et qu'ils peuvent donc d'une part respecter les mesures de confinement quand elles ont lieu, et aussi ne pas être terrorisés sur leur futur. Et ça, c'est indispensable justement pour d'abord parce que ça paraît tellement évident que c'est moralement la bonne chose à faire, mais aussi pour éviter l'effet boule de neige dont je parlais précédemment pour les pays les plus riches. C'est-à-dire, si les pauvres s'arrêtent de consommer, ils arrêteront d'acheter des produits qui sont essentiellement produits par d'autres personnes pauvres. Et du coup, la crise se multiplie elle-même, et on part d'une mesure isolée de confinement ou de réaction à la crise internationale à une dépression généralisée qui aurait des effets dramatiques sur
la pauvreté qui s'installerait partout. Mais on voit par exemple dans des pays émergents qui connaissent déjà de très grandes difficultés sanitaires. Si on pense au Brésil par exemple, le Brésil c'est un pays où beaucoup sont sortis de la pauvreté grâce à la mondialisation, on peut le dire rapidement, grâce à l'agriculture, à l'or, au fer, au pétrole qui était exporté. C'est un pays qui va avoir deux problèmes. S'il y a des relocalisations, si on renonce au principe du libre-échange, c'est un pays, le Brésil, qui risque de ne pas s'en sortir puisqu'une très large partie de son économie dépend de ce système-là.
Alors d'abord, on pourrait reprendre ce débat une autre fois, mais je ne pense pas que le Brésil ait fait sortir les gens de la pauvreté grâce à la mondialisation.
Non.
Pendant la période de mondialisation, les inégalités ont explosé. Et en fait, ça a pris justement un Lula et une économie sociale solidaire pour que ça se transmette en gains pour la pauvreté. Donc il n'y a pas de lien direct dans les pays pauvres entre accès au marché international et inégalité. Deuxième chose, là aussi je crois qu'on peut pas encore prédire ce qui va se produire sur la mondialisation, c'est-à-dire la réaction initiale c'est oulala il faut relocaliser parce que les chaînes d'approvisionnement sont très fragiles, mais je pense que si on y réfléchit un petit peu, ce qui va se produire en réalité c'est plutôt une diversification des chaînes d'approvisionnement. C'est-à-dire où on va se dire, mais c'est très dangereux de produire tout en Chine. Parce que si quelque chose se passe en Chine, toute l'économie mondiale est arrêtée.
Oui.
Mais la réponse n'est pas forcément de produire tout en Chine. La réponse peut être de distribuer les chaînes d'approvisionnement dans le monde entier. Et en fait, la difficulté pour les pays très pauvres, pas tellement pour le Brésil, mais prenez par exemple l'Éthiopie ou d'autres candidats à la mondialisation, c'est que se faire une place dans le commerce international qui est complètement dominé par les Chines est impossible, a été impossible parce que la réputation de la Chine et ses coûts sont tellement, la réputation de la Chine est tellement forte et ses coûts sont tellement faibles que personne n'arrive à rentrer dedans.
Oui.
Et aujourd'hui, l'opportunité potentiellement qui existe pour les pays pauvres et moins pauvres pour rentrer en fait dans ce bal, c'est de dire mais nous aussi on peut faire ce que fait la Chine. Par exemple, le Pakistan produit énormément de matériel médical qui aujourd'hui n'est pas exporté de manière massive, mais qui pourrait l'être, créant un autre endroit où ce type de matériel est produit et évitant le risque de pénurie juste au moment où on a besoin le plus de ce type de choses. Donc je pense qu'il y a une possibilité qu'il y ait une distribution internationale, une relocalisation dans une certaine mesure, mais aussi une distribution du commerce international qui, s'il est bien géré, pourrait en fait être une opportunité pour les pays pauvres.
Natacha Polony.
Vous montrez bien dans votre livre justement cette question, par exemple, de l'hyperspécialisation, la façon dont on a tendance à construire ce qu'on appelle des clusters, non pas de comme on en parle actuellement, mais des clusters des villes entières consacrées à un domaine, la chaussure ou la chaussette ou voilà. Et comment tout cela est extrêmement fragile. De même, il y a une autre chose d'extrêmement intéressant dans votre livre, c'est la question de la mobilité, parce que en fait, l'ensemble du système économique, de la pensée économique actuelle est fondée sur le mythe de la mobilité absolue. C'est-à-dire qu'en gros, les ouvriers qui ont perdu leur emploi dans tel domaine n'ont qu'à se déplacer vers l'endroit où il y a de l'emploi. D'ailleurs, c'est aussi la perception, vous le dites dans votre livre, qu'on a de l'immigration, c'est-à-dire l'idée que les gens se déplaceraient pour aller trouver une meilleure vie, alors qu'en fait, c'est faux. La question est de comprendre pourquoi il y en a plein qui ne se déplacent pas et qui ne voudront pas se déplacer. Et en fait, c'est le facteur humain. C'est le facteur humain, et c'est le fait que finalement le rôle de l'État au sein d'une entité, au sein d'un pays, d'une nation, c'est le fait justement que au sein de cette nation, on va rééquilibrer et aménager le territoire. Or, le système actuel ne permet plus à l'État de jouer ce rôle-là pour des raisons idéologiques, pour des raisons financières aussi, parce que on ne fait pas en sorte que l'État gagne assez pour cela. J'en reviens à ma question de tout à l'heure, du coup, à laquelle vous n'avez pas tout à fait répondu. Est-ce que il y a moyen de réorienter ce système à la marge? Vous le disiez dans votre réponse à ma question, plus d'État. Mais est-ce que ça peut suffire dans un système qui est entièrement fondé sur des mythes faux? Ou bien est-ce qu'il faut repenser totalement le système? Et de quelle manière, pour qu'il y ait une véritable régulation, pour qu'on tienne compte du fait que dans un pays, par exemple, comme la France, si on explique aux gens qu'ils doivent aller vers des métropoles pour trouver du travail, on crée des déserts, on crée de la souffrance même sociale, et on crée des endroits où il y a de la pauvreté. Comment on fait ?
Esther Duflo.
Vous avez parfaitement raison sur ce mythe, en fait, qui est très présent dans tous les modèles des économistes, mais qui a fait son chemin aussi parmi beaucoup de décideurs politiques, qui est que la réponse au changement économique, une région devient plus efficace qu'une autre, ou un type de production change, c'est que les gens devraient changer à la fois géographiquement, se déplacer pour chercher les opportunités, changer de secteur, etc. Et pour les économistes, ça fait tellement partie du paysage qu'ils le voient même plus, en fait. C'est la lumière qui permet de tout voir. Et on voit même pas la lumière elle-même. Alors que ce qu'on montre dans le livre, c'est que tous les travaux des économistes eux-mêmes montrent qu'en fait, la mobilité, que ce soit d'un secteur à l'autre ou d'un endroit à l'autre, est très difficile pour les gens, est très pénible. Elle est pénible parce que la dignité humaine n'est pas seulement liée au salaire qu'on gagne, mais elle est liée à l'interaction dans un tissu social, à la place qu'on a dans ce tissu, à la fierté qu'on a dans son travail, etc., etc. Et tout ça, c'est des choses qui sont pas prises en compte ni dans les modèles des économistes, ni souvent dans les politiques économiques. Donc pour moi, la réponse est pas « Oh, il faut donc changer l'ensemble du système capitaliste et le remplacer par autre chose ». La réponse est plutôt « Maintenant qu'on sait ça, si on prend ça en compte, qu'est-ce que ça nous dit sur la manière dont le marché va réussir à résoudre les problèmes qu'il cause ?» Et qu'est-ce que ça nous dit sur la manière dont il faut accompagner, corriger le marché? Sur la première question, ça nous dit non, le marché ne veut pas régler les problèmes qu'il cause. Par exemple, vous avez parlé de clustering, la tendance à toute la production de chaussures de se mettre dans la même ville est très essentielle à la manière dont le marché fonctionne, parce qu'il y a un petit bénéfice à être tous au même endroit pour chaque entreprise, et du coup, elles vont tous se précipiter au même endroit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il va falloir une action spécifique pour corriger ça, pour encourager la distribution de la production. Donc, par exemple, comme je parlais tout à l'heure de la distribution des chaînes d'approvisionnement, si on pensait que c'était important, il faudrait une action vraiment très spécifique pour aider de nouveaux acteurs à entrer dans ce bal, qui pourrait être des acteurs locaux en France ou des acteurs internationaux dans des pays qui aujourd'hui ne font pas partie du système international. Oui. Pareil si les gens perdent leur pareil, par exemple, si on se pose une question où quelqu'un est en train de perdre son emploi parce que à cause du commerce international ou à cause de la mécanisation, de l'automatisation, on peut pas s'attendre à ce que cette personne sache se trouver une formation, se déplacer, etc. facilement. Il faut mettre énormément de ressources dans l'accompagnement des transitions, ou même parfois, c'est peut-être une des mesures un petit peu plus radicales qu'on propose dans le livre, on se dit, il y a des gens qu'il vaut mieux accompagner, il vaut mieux laisser les choses en place, laisser des entreprises qui peut-être déplairont aux économistes parce qu'elles sont pas particulièrement productrices, mais parce qu'elles créent de la vie, elles créent du tissu social, elles créent de l'existence. Donc la réponse n'est pas « Oh, il faut supprimer le marché ou pas ». La réponse, c'est, étant donné toutes les imperfections du marché laissé à lui-même, quelles sont la manière dont on l'intègre dans notre vie politique, dans notre système social, pour limiter
les effets les plus pervers. Voilà. Gilles Finkelstein.
Oui, Esther Duflo, vous avez évoqué tout à l'heure, en parlant de la pauvreté, la question, le débat autour du revenu de base. Il se pose dans des termes nouveaux parce que on a vu avec la crise que pour 12 millions de salariés en chômage partiel en France, on a eu une dissociation entre le revenu et le travail. On sait, on l'a dit depuis une demi-heure, que cette crise va créer beaucoup de chômage et elle va créer une difficulté spécifique pour les jeunes. Ça fait plusieurs années que la Fondation Jaurès travaille à cette question du revenu de base, à son sens, à ses modalités, à son expérimentation sur le terrain avec les départements, non pas d'un revenu universel, mais d'un revenu de base, c'est-à-dire d'un revenu décent pour tous, c'est-à-dire y compris pour les jeunes et sans condition. Ma question est, les travaux sur la pauvreté que vous avez menés, notamment tous les travaux d'expérimentation, qu'est-ce qu'ils nous disent? Est-ce qu'ils permettent d'éclairer ce débat? D'une part sur l'utilité d'un revenu de base et d'autre part sur ses modalités. Notamment, est-ce qu'il faut l'ouvrir aux jeunes et est-ce qu'il faut l'assortir ou non de conditions?
Esther Duflo.
Je pense qu'il y a une différence entre les pays les plus pauvres et les pays riches. Dans les pays les plus pauvres, ce qu'on propose dans notre livre, déjà avant la crise et sur lequel on a essayé de revenir après la crise, c'est l'instauration d'un ce qu'on appelle un revenu de base ultra basique, universel, c'est-à-dire la possibilité pour chaque personne d'avoir accès quand il en a besoin de manière très simple, sans avoir à justifier tout un tas de conditions, à une somme suffisante pour survivre. C'est ce qu'on appelle le revenu de base universel ultra basique. Et c'est ce que j'évoquais auparavant quand je disais que pour empêcher de l'effet boule de neige de la crise du Covid, une réponse évidente, ça aurait été de immédiatement mettre à disposition de tout le monde, parce que les erreurs d'exclusion sont plus graves que les erreurs d'inclusion dans une situation pareille, un transfert de base. Ça a été fait par exemple au Togo, très très rapidement. Au Togo, un petit pays de 8 millions d'habitants, avec qui fait partie des plus pauvres du monde, a réussi à mettre en place en quelques jours un transfert d'abord pour les deux plus grandes villes qu'ils essayent aujourd'hui d'étendre dans toute la ville, qui était essentiellement universel. Les gens devaient s'enregistrer et en quelques jours ils ont eu un demi million de personnes.
Oui.
Mais ça n'a pas été plus aussi général que ça aurait été souhaitable, à mon avis. Dans les pays riches, c'est très différent, parce que dans les pays riches, d'une part, comme on le disait tout à l'heure, les gens n'ont pas juste besoin d'un revenu, ils ont besoin d'une intégration dans le tissu social. C'est vrai dans les pays pauvres, bien sûr, mais dans les pays pauvres, quand la question de la survie se pose, la première chose à établir, c'est la survie pour tout le monde, qui dans les pays riches a été dépassée pour beaucoup. Donc, le revenu lui-même n'est pas suffisant. Ce qu'il faut donner aux gens, c'est plus qu'un revenu. D'abord, si c'est un revenu, c'est pas un revenu ultra basique. Donc, si ça devait être vraiment universel, ce serait extrêmement cher. D'autre part, c'est la possibilité d'être intégré dans la vie économique. Et donc, on a la possibilité, en fait, parce qu'on a beaucoup plus d'informations statistiques sur la situation de chaque personne, de cibler notre aide plus efficacement et donc de donner plus, à la fois sous la forme financière et sous la forme non financière, comme des aides au logement, des aides à la mobilité, des aides à la formation,
etc.
Si on le fait pas de manière universelle. Donc finalement, après avoir bien regardé le problème sous tous les côtés, dans notre livre, on vient plutôt à l'idée que dans les pays pauvres, c'est une bonne chose à faire. D'ailleurs, il y a beaucoup d'expériences qui montrent que l'argent est très très bien utilisé. Et que dans les pays riches, on peut plutôt penser à dépenser le même budget ou des budgets plus importants, si vous nous posiez la question de combien dépenser,
oui,
sur d'autres choses.
Il nous reste très peu de temps, Esther Duflo, malheureusement. Une dernière question, comme il y a maintenant le prix Nobel, dès que vous prenez la parole, ça a eu des conséquences et un retentissement parfois très très fort. Quand vous avez parlé de la fiscalité, de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune en France, ça a été beaucoup commenté. C'est assez frappant de voir, malgré tout, pendant cette crise aux États-Unis, notamment, qu'il y a eu des milliardaires qui se sont encore plus enrichis, qui ont fait des fortunes très rapidement, que ce soit Mark Zuckerberg, que ce soit tous ceux qui ont des actions Amazon, et qui ne payent quasiment rien en impôts. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de repenser la fiscalité sur le capital, pas simplement sur le travail, mais sur le capital, pour redistribuer les choses et les revenus plus décemment?
Je pense parce que dans nos conversations, disons, économiques et politiques, il y a une espèce de, à nouveau, c'est une intuition, mais c'est une intuition qui est pas correcte, mais c'est une intuition qui est tellement forte qu'elle domine un petit peu les conversations, qui est que on peut taxer les revenus, mais les fortunes étant le produit de revenus passés ont déjà été taxées une fois et donc on les retaxe pas. Et il y a une espèce de respect très profond pour la propriété qui serait en fait le bénéfice du travail passé. Ce qu'on oublie dans ce qui concerne la fiscalité des grandes fortunes, c'est deux choses. D'une part que ces revenus et ces grandes fortunes sont elles-mêmes, se sont elles-mêmes faites grâce à une infrastructure nationale,
ouais, bien sûr.
En commençant par l'éducation et ensuite les facteurs qui envoient les colis Amazon, par exemple. Et d'autre part, qu'il y a quelque chose de profondément inégal dans les grandes fortunes, c'est que les grandes fortunes, quand elles sont réinvesties, ne sont pas taxées.
Oui.
Et donc, on taxe moins les revenus de la fortune que les revenus du travail, ce qui paraît quand même extrêmement injuste. C'est pour ça qu'aux
injuste
États-Unis,
et paradoxal.
France, il y a une nouvelle discussion sur la taxation du capital.
Et le débat commence. En tout cas, merci infiniment Esther Duflo d'avoir été l'invitée du Grand Face à Face. C'était passionnant. Économie utile pour des temps difficiles et publié aux éditions du Seuil. Natacha et Gilles, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci à Paola Purari, à toute l'équipe du Grand Face à Face, à suivre sur Inter le journal.